France Inter.
RTS La Première.
RFI.
RTBF La Première.
Radio Canada.
Le réseau des radios d'outre-mer La Première.
Présente.
La folie des années 80.
On est dans la merde en France. On est dans la merde.
C'est cela, oui.
25 millions de rubis cubes vendus.
I said I want to fuck her.
Oh, maman.
36-15 infogrammes, des milliers de pins à gagner.
Mr. Gorbatchev, tear down this wall.
Une série réalisée par Cécile Poz et Marion Guimette.
Année 1989.
Il était une dernière fois Sergio Leone, et le cinéaste italien est donc mort hier soir à Rome d'une crise cardiaque.
L'homme à la pipe, le père de Maigret et son modèle, Georges Simenon, est mort.
Herbert von Karajan, mort aujourd'hui près de Salzbourg, chez lui, en Autriche. Il avait totalement consacré sa vie à la musique.
Des milliers de personnes manifestaient hier dans plusieurs villes de Roumanie contre le régime des Ceaușescu.
Il était célèbre depuis 1926 et il jouait encore il y a quelques semaines alors qu'il était âgé de 85 ans. Vladimir Horowitz est mort d'une crise cardiaque hier soir à son domicile de Manhattan.
Bonsoir, historique, l'Allemagne de l'Est annonce ce soir l'ouverture totale de ses frontières pour les candidats à l'immigration avec la RFA et Berlin-Ouest, tant pour les candidats à l'exil que pour les voyages privés. La mesure est effective immédiatement. L'un des membres du nouveau bureau politique vient de l'annoncer. En clair, Fabrice Lequintrec, c'est la fin du mur de Berlin qui est annoncée ce soir.
Le plus grand bouleversement, celui qui va changer la face du monde et la vie de milliers de personnes, c'est incontestablement la fin du rideau de fer, la chute du mur de Berlin, qui survient le 9 novembre 1989. Mais cet événement est loin d'être isolé. Il est le dernier domino d'une suite d'événements qui se sont succédés au cours des années 80. Et pour le comprendre, il faut remonter le temps.
En Pologne, il y a 5 ans maintenant que Lech Walesa, ouvrier électricien, prenait la tête d'un mouvement de révolte ouvrière qui a abouti à la création du syndicat Solidarité. Un anniversaire célébré discrètement hier à Gdansk.
Ce parti, Solidarność, est fondé 5 ans plus tôt, le 31 août, par Lech Walesa.
1980, mine de rien, et la fin des années 70, ce tournant du début des années 80, est un moment crucial en réalité, où différents éléments se mettent en place qui vont aboutir au bouleversement de la fin des années 80.
Pierre Marlet, journaliste responsable de l'info sur La Première.
Parce qu'on s'aperçoit qu'en 79-80, le monde communiste est terriblement ébranlé et l'endroit où tout commence, c'est la Pologne, au chantier naval de Gdansk, avec une protestation au départ. Souvent, c'est des situations vécues comme injustes où on a l'impression que là, on ne tient pas compte de l'intérêt des travailleurs. Et donc, petit à petit, va se mettre en place une structure qu'on va appeler Solidarność, solidarité en polonais, qu'on va aussi apprendre à connaître comme mot dans les années 80. Vous voyez, on apprend en russe glasnost et perestroika, on apprend un mot polonais qui est Solidarność. Et va émerger une figure, Lech Walesa, qui au départ est un des ouvriers, qui a une grande gueule, qui sait parler, qui a un charisme et qui incarne cette protestation profonde qui naît dans les années 79-80 à Gdansk. Et l'étonnement, c'est qu'à l'époque, la Pologne est un pays extrêmement catholique, où le catholicisme est profondément imprégné dans la société, malgré le régime communiste. Alors que nous, on a l'habitude d'avoir des drapeaux rouges dans les révolutions et dans les contestations. Ben là, le drapeau de la contestation, c'est le jaune et le blanc du Vatican. Et c'est une manière de protester, vous voyez, contre le régime communiste à l'époque. C'est une inversion complète. Et on découvre, le monde découvre comme ça, assez étonné, ce qui est en train de se mettre en place en Pologne, qui va être suivi d'abord d'une période de répression, où voilà, le régime va vouloir penser qu'il y a moyen de dompter cette révolte, mais il ne va pas y parvenir. Et toujours, il va falloir continuer à négocier avec ce Walesa qui continue vraiment de contester par la petite lorgnette, de faire tout ce qu'il peut faire. Et durant toutes les années 80, on va avoir une oscillation entre des moments de répression et puis des moments où on essaie d'ouvrir la porte pour continuer à négocier. Et dès qu'on négocie, eh ben c'est parti. Et tout ça en sous-main avec, derrière le catholicisme qui symbolise la société polonaise et quelque part la contestation au régime en place, il y a la figure d'un pape polonais, Jean-Paul II, qui a une influence énorme dans la société polonaise, qui est écouté. Et donc on peut dire que AE2, Jean-Paul II et Lech Walesa sont des instruments qui vont déstabiliser le régime communiste, qui va y perdre son latin, qui n'arrive plus à contrôler la situation. Et ce qui se met en place en Pologne, cette contestation, va radicalement changer les choses. Parce que si l'on y réfléchit, pourquoi est-ce que c'est dévastateur? Parce que dans le régime communiste, les travailleurs sont normalement représentés par le pouvoir en place, par l'État. C'est ce que dit la doctrine communiste. Donc le syndicat, c'est le représentant de l'État. Vous ne pouvez pas avoir un syndicat indépendant. Reconnaître qu'il existe des syndicats indépendants qui représentent les travailleurs, ça veut donc dire que les travailleurs ne sont pas représentés par les gouvernants. Mais alors, ils ne représentent plus le peuple. Donc, c'est terriblement dévastateur pour le principe même du communisme. Et c'est ce qui va se passer. Ça va être gangréné de l'intérieur. Et la situation polonaise est un des éléments d'explication, véritablement, de ce qui se passe dans le monde communiste. Tiens, il y a moyen de contester de l'intérieur, et plus on conteste, plus on pourrait avancer. Quand Gorbatchev arrive, il fait le pari du dialogue. Et donc, quelque part, sans le vouloir, il va encourager lui aussi cette contestation et Lech Walesa. Et lorsqu'à la fin des années 80, on va faire des élections partielles en 1989, oui, ce sera toujours comme d'habitude la liste du Parti communiste, mais il y aura un choix. Et il y aura le choix des représentants de Solidarność. Et le régime en passe pense que cette petite ouverture va être contrôlée. Cruelle erreur, les Polonais vont voter en masse pour Solidarność et vont rendre la situation absolument impossible, montrant que les gouvernants n'ont plus de légitimité. Donc, pour schématiser, on peut dire que durant les années 80, c'est de Pologne que vient le premier ébranlement du monde soviétique qui paraît encore très solide. Mais là, il y a en germe, et l'Occident ne s'en rend pas compte, mais il y a en germe le fait que le communisme est condamné à terme et risque de s'effondrer comme un château de cartes. Et sans doute que la personnalité de Lech Walesa et aussi de Jean-Paul II, ces deux personnalités conjuguées, ont créé une situation inédite en Pologne.
L'Allemagne, elle, est toujours défigurée par le mur. Il y a la République fédérale d'Allemagne, côté ouest, et la République démocratique allemande, côté est. Et la RDA n'entend pas s'ouvrir au monde. En 1987, la ville de Berlin, traversée donc par le mur, célèbre son 750e anniversaire. Du 30 avril au 15 novembre, les fêtes, les spectacles, les animations et les concerts se succèdent. Et le 12 juin 1987, lors donc de ce 750e anniversaire de Berlin, le président américain Ronald Reagan se rend à Berlin-Ouest. C'est à la porte de Brandebourg que publiquement, il adresse un message à Mikhail Gorbatchev.
General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
C'est depuis le 11 mars 1985 que Mikhail Gorbatchev devient le premier secrétaire du Parti socialiste de l'Union soviétique. Et il porte avec lui une politique qui changera la face du monde et qui mettra fin à la guerre froide. Mikhail Gorbatchev instaure ce qu'on appelle le glasnost et la perestroïka qui ne sont pas du tout au goût du dirigeant de la RDA, Erich Honecker.
L'événement essentiel, je pense, là il faut remonter un peu plus loin, il faut aller jusqu'à l'année 85.
Le philosophe Vincent von Wroblewski, qui a vécu en RDA.
Avec l'Union soviétique, dont dépendait évidemment la RDA dans tout ce qu'elle faisait, et Gorbatchev à la tête. Et avec ça, il y a les réformes en Union soviétique, connues sous le nom de glasnost et perestroïka, donc ouverture, restructuration. Et ça, ça a eu évidemment un effet sur la RDA, ça a fait un effet sur nous, parce que après toute l'histoire antérieure, il était clair, un vrai changement ne peut avoir lieu que s'il a lieu d'abord et aussi en Union soviétique, pour qu'elle ne vienne pas, comme ça a été le cas en 68 à Prague, ou en 56 à Budapest, ou après 70 en Pologne, écraser ces mouvements de réforme par ces tanks, etc. Donc avec Gorbatchev, il y avait un nouvel espoir, et les chefs rigides en RDA à la Honecker ne voulaient pas de ça, ils essayaient d'éviter. Et il y avait des situations vraiment grotesques. Pendant toute l'histoire de la RDA, il y avait toujours le slogan « Apprendre de l'URSS, c'est apprendre à vaincre ». pas peut-être la traduction idéale. Et d'un coup, le gouvernement de la RDA, le parti, arrivait à interdire des publications venant de l'Union soviétique. Alors c'était vraiment le... Tout était renversé.
La chute du mur se comprend dans un contexte plus large.
L'historienne Corinne de France.
De tout ce qui se passe dans les pays d'Europe centre-orientale, dans les pays du pacte de Varsovie, ça fait déjà des années que la situation bouge en Pologne particulièrement, mais aussi en Tchécoslovaquie, en Hongrie. Donc il y a ce mouvement de pression qui se fait de plus en plus fort. Et la RDA, qui est restée certainement un des régimes communistes les plus stricts et les plus conservateurs et les plus figés, est au bord de l'implosion économique. La situation est catastrophique, donc la RDA peut se maintenir grâce à des injections financières de l'Occident. La RFA rachète massivement et à prix d'or des prisonniers politiques, et donc il y a une sorte d'accord comme ça, argent occidental contre libération de prisonniers politiques.
Sans Gorbatchev, les choses ne seraient certainement pas passées de la même façon.
Le spécialiste de la civilisation allemande contemporaine, Jérôme Vaillant.
En Allemagne de l'Est, il change les bases mêmes de la politique étrangère de l'Union soviétique. Ce serait presque un peu long à évoquer, mais il suffit de dire deux ou trois éléments. Le premier, c'est qu'il abandonne la doctrine dite « doctrine Brejnev », de la souveraineté limitée des pays socialistes, qui leur impose à ces pays socialistes, finalement, de prendre l'Union soviétique pour modèle. Et l'abandon de la doctrine Brejnev revient à dire aux États, qu'on appelle à l'Ouest satellites de l'Union soviétique, vous continuez de marcher vers le socialisme, mais selon votre rythme et en fonction de vos possibilités locales. Donc c'est une façon de rendre de la liberté de manœuvre aux États socialistes et de ne pas leur imposer le régime stalinien passé. Ça, c'est un élément particulièrement important. Il espère que finalement tous les États socialistes vont suivre les principes de la perestroïka, qui signifie tout simplement transformation en russe, ou bien les principes de glasnost, qui imposent la transparence et permettent la mise en place de partis différents du Parti communiste. Et ça, c'est une véritable hérésie pour un parti communiste. C'est une hérésie aux yeux de Erich Honecker. Je serais tenté de dire que Erich Honecker est certainement quelqu'un qui a le plus vite et le mieux compris le danger que la perestroïka représentait pour la RDA. Parce qu'il avait compris certainement une chose, c'est que sans le soutien absolu de l'Union soviétique, la RDA restait un État fragile et qu'elle pouvait disparaître.
Au cours des années 80, des revendications commencent à se faire entendre dans ces pays communistes où la population avait été muselée. Les contestataires se rassemblent dans les églises avant d'aller manifester dans les rues des grandes villes allemandes, comme par exemple Dresde, Leipzig ou encore Berlin-Est. Le 12 mai 1989, la Hongrie signe la Convention de l'ONU sur les réfugiés et celle-ci entre en vigueur un mois plus tard. Avant cet accord, la Hongrie devait remettre à la Stasi, la police politique, tout réfugié est-allemand qui tentait de passer à l'Ouest. Dorénavant, la Hongrie laissera les Allemands de l'Est fuir à l'Ouest. Cette convention a pour conséquence le démantèlement du rideau de fer qui, elle-même, est un des résultats des transformations de la politique étrangère de l'URSS. Le monde occidental prime désormais sur la solidarité due aux pays du camp soviétique.
Passeport pour la liberté, près de 200 réfugiés est-allemands ont réussi cet après-midi à s'enfuir de Hongrie en se réfugiant en Autriche. Tous assistaient près de Sopron à un rassemblement politique organisé par des mouvements de l'opposition hongroise pour célébrer le démantèlement du rideau de fer entre la Hongrie et l'Autriche. Mais lorsqu'un passage a été ouvert à la frontière pour laisser les participants autrichiens venir se joindre à la réunion, les réfugiés est-allemands ont saisi l'occasion pour passer à l'Ouest.
Durant l'année 1989, les manifestations se multiplient en RDA. C'est la révolution pacifique de l'automne 89. Le slogan « Wir sind ein Volk »,« Nous sommes le peuple », rassemble de plus en plus d'Allemands de l'Est dans les grandes villes de RDA.
Wir sind ein Volk.
Le gouvernement de RDA se montre inflexible. Aucun changement, aucune ouverture, aucune réforme n'est à l'ordre du jour. À partir du 4 septembre, les manifestants prennent l'habitude de défiler chaque lundi. La plus grande manifestation se tient à Leipzig, c'était le 9 octobre 89.
Et à un moment donné, c'est aussi une phrase qui est devenue célèbre. Un dirigeant est-allemand a répondu à une journaliste ouest-allemande du journal Der Stern qui voulait savoir pourquoi la RDA ne fait pas des réformes par rapport à ses voisins. Et Kurt Hager a répondu, mais vous n'allez pas refaire votre appartement comme votre voisin. Donc là, les habitants de la RDA ont compris que le régime de la RDA n'est pas prêt à réformer le pays. Et ils avaient même peur que ça se passe comme en Chine, au même moment, quand les chars, en gros, ont écrasé la révolte à Pékin. Et on a parlé aussi au sein du régime est-allemand, est-ce qu'il faut appliquer la solution chinoise ou pas? Hein, on sait aujourd'hui que en 89, les manifestations ont commencé à Leipzig. Beaucoup de manifestants ont fait leur testament. Parce qu'ils ne savaient pas s'ils rentrent encore le soir vivants, parce qu'ils n'avaient pas non plus oublié les images de 53 ou de 56 ou de 68 à Prague. Donc une intervention de l'armée rouge ou de l'armée de la RDA était tout à fait envisageable. Et cette solution chinoise était quand même discutée.
La solution chinoise, c'est ce qu'on a appelé le massacre de la place Tiananmen. Tout commence le 15 avril 1989. Les étudiants chinois ont envahi les rues. Ils réclament des réformes du communisme. Ils veulent simplement plus de démocratie. Et l'élément déclencheur, c'est ceci.
L'ancien numéro 1 du Parti communiste chinois, Hu Yaobang, est décédé samedi et des milliers de Chinois sont descendus dans les rues de Pékin pour lui rendre hommage. Monsieur Hu, c'était le symbole des réformes en Chine. Trop progressiste, sans doute, il était tombé en disgrâce en 87. Ce sont surtout des étudiants chinois qui ont salué sa mémoire par ces vastes manifestations improvisées. D'abord rassemblés sur l'immense place Tiananmen au centre de Pékin, ils ont pris en cortège la direction du siège du Parti communiste, en scandant des slogans qui réclament tout à la fois la démission du Premier ministre Li Peng et demandent à lui parler.
Hu Yaobang était donc une figure admirée des étudiants et des intellectuels chinois partisans de réformes démocratiques. Des manifestations spontanées ont lieu dans tout le pays et le gouvernement organise en son honneur des funérailles nationales, c'était le 22 avril. Mais avant cela, les 16 et 17 avril, d'autres rassemblements spontanés se font jour, place Tiananmen. Ils demandent la réhabilitation politique de Hu Yaobang. Le 18, quelques milliers d'étudiants et de civils se rendent sur la place où ils organisent un sit-in devant le Grand Palais du Peuple. Le 23 avril, les manifestations s'amplifient et tournent à l'émeute.
En Chine, la contestation s'étend, se structure et semble prendre un tour nettement moins pacifique. Ce n'est plus seulement à Pékin qu'on manifeste pour plus de démocratie. De violents affrontements ont eu lieu hier à Changsha, dans le sud, et à Xian, dans le nord du pays, sous le regard impassible de la fameuse armée de terre cuite.
Pas d'accalmie en Chine, voici les images que nous avons reçues de la ville de Xian, qui a connu une véritable nuit d'émeute. Des dizaines de véhicules ont été incendiés, des maisons aussi. Il y a eu des affrontements entre des milliers de manifestants et les forces de l'ordre. La foule en colère a blessé 130 policiers. À Pékin, les étudiants qui sont au centre du mouvement de contestation se sont réunis ce matin sur la place Tiananmen. Ils réclament la réhabilitation posthume de Hu Yaobang, l'ancien secrétaire général du Parti communiste, évincé du pouvoir. Le mouvement contestataire veut obtenir plus de liberté et de démocratie. Ici, les Dazibao, les affiches, lancent un appel à la grève nationale à partir de demain pour obliger le pouvoir à ouvrir le dialogue. Si cette grève nationale était suivie, ce serait une première dans l'histoire de la Chine communiste.
Les manifestations se poursuivent et les étudiants entament alors une grève de la faim. Les négociations s'enlisent. Aucun terrain d'entente n'est envisageable. Le 20 mai 1989, via des haut-parleurs placés sur la place Tiananmen, le gouvernement chinois annonce aux étudiants manifestants l'instauration de la loi martiale.
À Pékin, c'est l'insurrection. La résistance pacifiste compte ses premiers morts. L'armée envahit les rues de la ville et la population, horrifiée de voir ses soldats marcher contre elle, érige barrages et barricades. L'armée tire sur la foule, semant la panique et la mort.
L'armée chinoise a tiré au 14e jour de la loi martiale. Peu après minuit, on dénombrait 10 morts et au moins une centaine de blessés pour la plupart des étudiants qui avaient tenté de s'interposer, d'empêcher les convois militaires de gagner le centre de la capitale. Au total, ce sont des dizaines de milliers de soldats qui ont déferlé vers le cœur de la ville casqués et armés de fusils automatiques.
Le 4 juin 1989, c'est un véritable massacre qui a lieu sur la place Tiananmen.
En Chine, des patrouilles militaires et des blindés continuent à quadriller les rues de la capitale. On entend toujours des tirs d'armes automatiques. Les militaires poursuivent donc leur action. Mais le mouvement contestataire semble quelque peu chaos après la répression brutale de la nuit dernière. On parle, à l'heure actuelle, de 1400 morts et de 10 000 blessés à Pékin. Les hôpitaux de la capitale sont tous remplis.
La nuit dernière restera tout jamais gravée dans la mémoire des manifestants de Pékin. L'armée est intervenue en force pour les déloger de la place Tiananmen. La partie était inégale. Chars, véhicules blindés, mitrailleuses lourdes d'un côté. De l'autre, des manifestants mains nues ou presque. Ils ont répliqué à coups de pavés, de bouteilles et de cocktails Molotov. L'avancée de l'armée s'est accompagnée d'un véritable carnage. Certains manifestants ont été fauchés par les balles. D'autres manifestants ont été écrasés par les chevilles des chars. Quant à la statue de la démocratie érigée par les étudiants, elle a été détruite.
Lorsque les manifestants est-allemands investissent les rues de la RDA, ils craignent que les chars mettent fin aux manifestations comme ils l'ont fait en Chine, notamment lors de celles qui se déroulent le 9 octobre 89 à Leipzig.
Le 9 octobre 1989, on a en effet à Leipzig une énorme manifestation qui s'inscrit dans la continuité des manifestations lancées depuis le mois de septembre dans cette ville de Saxe. Et la Stasi, en collaboration avec l'armée, se tient prête en effet à réprimer cette manifestation. On a commandé un certain nombre de housses plastiques pour d'éventuels décès, c'est-à-dire qu'on se préparait à une répression sanglante. On avait en effet informé et préparé les hôpitaux à accueillir un certain nombre de blessés. Il y avait donc des poches de sang qui avaient été commandées en plus. Et la Stasi avait aussi lancé ces rumeurs en essayant de faire peur aux manifestants. Et c'est là où on peut saluer l'héroïsme et le courage de ces habitants de Leipzig, parce que en dépit de ces rumeurs, en dépit aussi de la mobilisation importante de troupes, d'unités qui étaient présentes sur place, avec même des chars qui avaient été mobilisés dans les rues parallèles, ils ont surmonté leur peur et ils sont descendus en masse dans les rues et ils ont manifesté de manière pacifique. Et le régime, finalement, n'a pas décidé de réprimer dans le sang cette manifestation pacifique. Donc il y a quelque chose qui s'est passé comme une sorte de tournant le 9 octobre, parce que les Allemands de l'Est ont pris conscience que collectivement, ils pouvaient établir un rapport de force favorable, dans la mesure où cette manifestation n'avait pas débouché sur une répression sanglante.
Et on a demandé aux policiers, aux agents de la Stasi après la réunification, mais pourquoi finalement vous n'avez pas tiré à Leipzig sur les manifestants? Et on sait que manifestations, en général, ont commencé dans les églises. Il y avait des cultes. Et les gens ont quitté l'église avec des bougies à la main. Ils ont manifesté avec des bougies à la main. Et ils ont dit qu'on ne pouvait pas tirer sur des gens qui ont des bougies à la main. Donc, et finalement, je crois qu'ils ont aussi compris que ça avait changé. Et avec la politique de Glasnost et de Perestroïka à Moscou, et aussi un certain soutien par Gorbatchev, le régime des RDA n'était pas sûr que l'armée rouge intervienne.
Nous sommes le 7 octobre 89. La RDA souffle ses 40 bougies et pour l'occasion, à Berlin-Est, sur la Karl-Marx-Allee, les chefs du pays du bloc soviétique sont réunis. Mikhail Gorbatchev, le leader du Glasnost et de la Perestroïka, est présent et il ne se prive pas de dire aux dirigeants de la RDA, Erich Honecker, que le régime est-allemand est celui d'un autre temps.
On a pas mal appris dans la manière de faire avancer les choses et comment défendre la politique. Je pense seulement que ceux qui ne réagissent pas à la vie sont en danger.
Et ça a été interprété aussi comme presque le vœu de Gorbatchev de voir les choses changer en RDA.
Jérôme Vaillant.
Et ça a certainement précipité la chute du régime. Alors, au-delà de toutes ces déclarations, qui restent des déclarations, on pourrait dire, semi-officielles, ce qui importe, c'est que l'Union soviétique a fait savoir, dans le cadre de la chute du mur, que l'Union soviétique n'interviendrait pas. c'est perçu par l'élite du SED comme une façon très claire d'être lâché par l'Union soviétique, ce que Erich Honecker redoutait. Donc tous ces éléments se conjuguant, la fermentation, on pourrait dire, intérieure du pays, les modifications de la politique extérieure soviétique changent véritablement les conditions d'existence même de la RDA.
Le régime n'a plus les moyens de se maintenir dans cette situation. La RDA doit être vue dans cet ensemble plus large et en miroir de ce qui se passe dans les autres pays de l'Europe centre-orientale. Et donc c'est sous la pression de la situation internationale, parce que la situation économique est catastrophique, que le régime va s'effondrer. Va s'effondrer sous la pression de sa propre population, qui maintenant manifeste de plus en plus, hein, les grandes manifestations à Leipzig. Et on a vu aussi tout au cours de l'été 1989 des Allemands de l'Est profiter des vacances pour passer à l'Ouest par les ambassades de la RFA à Prague ou ailleurs encore. Donc certains ont franchi la frontière entre la Hongrie et l'Autriche. Donc on voit massivement reprendre un mouvement de fuite à l'été 1989 avec ces manifestations pacifique qui se développe à Leipzig et dans bien d'autres villes de la RDA et qui vont finir par faire tomber le régime.
Une autre des grandes manifestations a lieu le 4 novembre sur l'Alexanderplatz à Berlin-Est.
Des gens euphoriques, des slogans qu'ils avaient fait eux-mêmes, c'était plus les slogans inventés, dictés par le parti, avec beaucoup d'imagination, d'humour. Bon, par exemple, « Ne crois qu'aux statistiques que tu as toi-même falsifiées ». C'était quelque chose de tout à fait nouveau dans ce pays et c'était un moment extraordinaire qui promettait un changement. Donc 5 jours plus tard, c'est le mur qui s'ouvre.
Le 9 novembre 1989, Egon Krenz, qui est alors le secrétaire général du SED et qui prend donc la place d'Erich Honecker, Egon Krenz donc informe les principaux dirigeants du régime qu'une nouvelle législation sur les voyages des Allemands de l'Est vient d'être adoptée. Le soir de ce 9 novembre 89, à 18h, Günther Schabowski présente devant la presse internationale les dernières décisions du régime. Cette conférence de presse est retransmise en radio et en télévision.
Über den heutigen Beratungstag informierte Günther Schabowski am Abend die internationale Presse. Dabei gab er auch einen Beschluss des Ministerrates zu neuen Reiseregelungen bekannt.
Dorénavant, les demandes d'autorisation pour les voyages privés à l'étranger peuvent être demandées sans justificatif préalable et seront accordées rapidement. Dès maintenant, le passage de tous les postes frontières entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest sera possible.
La chute du mur, comme on dit alors symbolique, hein, parce qu'on a franchi le mur, il est tombé que quelques... Il a été démoli dans sa matérialité que quelques jours et semaines plus tard. Mais c'est une grande surprise, ce qui se passe au soir du 9 novembre avec cette conférence de presse des responsables du régime qui lit en direct une dépêche en disant que la frontière va être ouverte et un journaliste occidental, italien, je crois, qui est présent dans la salle demande mais à partir de quand, et il dit voilà, à partir de maintenant, à partir de ce soir. C'est relayé par la radio, par les médias, et des Est-Allemands immédiatement se précipitent à la Bornholmerstrasse sur quelques points de passage.
J'ai jamais vu des gens comme ça, j'ai jamais vu cette folie. Les gens parlaient comme ils n'ont pas parlé 30 ans avant et ils n'ont pas hésité de dire vraiment ce qu'ils ressentaient. Et à ce moment-là, j'étais portée par cette folie et je voulais vraiment passer la frontière.
Der Antrieb ist eigentlich der, ich habe erlebt, wie die Mauer gebaut worden ist. Und wir sehen, wie sie wieder abkommt.
Je peux seulement pleurer. C'est énormément ce qui s'est passé à ce jour pour nous tous. Tous les gens qui étaient toujours séparés. J'étais avec mes amis et on était joyeux, joyeux. C'était admirable. C'était extraordinaire, les gens qui sont marchés sur le mur. Et aussi, les gens de l'Est et les gens de l'Ouest, ils se sont embrassés. C'était incroyable que c'était possible. Parce que personne a attendu que ça vienne si vite.
In diese Veranstaltung hinein kam ein junger Mann und sagte, die Mauer ist gestürzt, die Mauer ist offen.
Et durant donc cette discussion, cette manifestation, un jeune homme est arrivé et a crié, le mur est tombé.
Ich bin dann zunächst nach Hause gefahren und habe mir auch im Fernsehen Bilder angesehen. Und der ganze Abend und die Nacht wurde ja beherrscht von dem Wort Wahnsinn.
Je suis rentré à la maison, j'ai regardé la télé et toute la soirée était prégnée du mot c'est fou, Wahnsinn.
Das Gefühl, das wir an diesem Abend hatten und auch in den nächsten Tagen, ist schwer zu beschreiben.
Très difficile de décrire le sentiment qu'on éprouvait alors ce soir-là. Le mot de joie n'est pas suffisamment fort. C'est davantage le terme de Wahnsinn, de folie, qui exprime ce qu'on a ressenti à ce moment-là.
Es gibt doch Freudensituationen im Leben eines Menschen, in denen man entweder nur schreien kann vor Freude oder weinen. Und so eine Situation war es.
Il y a des moments dans la vie où on est partagé entre l'envie de crier, de pleurer de joie, et c'était un peu ce moment-là, on était partagé entre l'idée, enfin, de crier.
La police des frontières cherche à obtenir quand même des ordres.
Jérôme Vaillant.
On dit à la police des frontières, on nous a dit qu'on pouvait passer. Bah, ils ne disent pas parce qu'on vous a dit qu'on va vous laisser passer. Ils essaient d'obtenir des ordres, ils n'obtiennent aucune confirmation de quoi que ce soit.
L'ordre de tuer les fugitifs n'avait pas été encore officiellement levé, ce qu'on appelait le Schießbefehl.
Emmanuel Droit.
Était encore en vigueur, mais devant la masse des personnes présentes, un soldat nerveux aurait pu ouvrir le feu et on aurait pu avoir une situation évidemment complètement différente. Mais les officiers qui étaient en poste, notamment au poste frontière de la Bornholmerstrasse, devant la masse d'individus qui commençaient d'ailleurs à être en colère et à manifester des formes de mécontentement, ont préféré ouvrir les vannes. On a la transcription des protocoles, des échanges radio entre ce poste frontière et le quartier général de la Stasi et le lieutenant Jäger, qui était présent le 9 novembre 89 à ce poste frontière, déclara à un moment « Wir fluten ab », ce qui veut dire en allemand « On ouvre les vannes parce que là, on ne peut plus contenir la foule de manifestants et on va les laisser passer à l'ouest ».
Lors de cette liesse générale, plusieurs musiciens sont venus jouer près du mur, notamment le violoncelliste Mstislav Rostropovitch. Et beaucoup de personnes ont dansé sur cette musique. Lorsque le mur tombe, plusieurs Allemands sont près de la porte de Brandebourg, dont un policier en uniforme, et ils se mettent à danser la fameuse Lambada. C'est qu'en 1989, la Lambada était le tube de l'été en Allemagne de l'Ouest. Et pas seulement en Allemagne de l'Ouest, mais également dans de nombreux pays occidentaux.
La fin des années 80 va créer un nouveau genre.
Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde.
C'est les télétubes. Alors, pas les télétubbies, hein, qui d'ailleurs sont à peu près au même moment, mais les tubes générés par la télévision. Et qui sont donc des chansons et des vidéoclips qui sont promus par une chaîne de télévision, en général associée avec une station de radio et un producteur et une maison de disques pour en assurer la promotion. L'archétype, c'est la Lambada. On est en 1989. La Lambada, donc, c'est TF1 qui la lance avec la radio Europe 1 et la maison de disques Sony pour la fête de la musique, donc le 21 juin 1989. Ça va être un succès absolument planétaire, à la fois parce que cette chanson qui a été achetée au Brésil, mais qui en réalité se révélera avoir été empruntée à des musiciens boliviens, Los Chalcas et les frères Hermosa qui ont écrit cette chanson. Mais elle est assez irrésistible hein, parce que c'est une chanson qui fait danser, très entraînante, avec de l'accordéon, chantée par une Brésilienne de Paris, Loalva Braz, et surtout avec un vidéoclip montrant deux enfants qui interprètent cette danse qui est quand même extrêmement chaude, hein, puisqu'il faut s'en mêler les cuisses hein, pour danser, garçons et filles. Et donc à la fois cette chanson et ce vidéoclip promu à longueur de journée sur l'antenne de TF1 hein, pour l'équivalent de millions et de millions d'euros de temps d'antenne, de temps de cerveau libre, hein, comme disait d'ailleurs le président de TF1 à l'époque, et en playlist, en rotation sur la radio Europe 1. Mais tous les autres ont été obligés de la passer parce que c'était le tube de l'année 89 et ça a été pour le coup un tube planétaire hein, puisque la chanson a marché absolument partout, d'ailleurs donné lieu à des adaptations et même il y a eu 5 ou 6 films qui ont été produits, qui essayaient de raconter l'histoire de la lambada ou des histoires autour de la lambada. Donc c'est devenu un phénomène culturel absolument incroyable et puis une manne évidemment financière tout à fait spectaculaire, qui a donc déclenché un genre, puisque évidemment tout le monde a voulu avoir son tube de l'été par la suite. Alors on n'était plus au slow de l'été des années 60, mais on a recréé la chanson de l'été comme ça. Alors il y en a eu plein, il y a eu la Macarena hein, notamment et beaucoup d'autres par la suite. Mais donc ça a été un phénomène lancé par les années 80 et ça montre bien comment les années 80 étaient des années de business avant tout.
Le 21 juillet 1990, Roger Waters organise un immense concert sur la Potsdamer Platz de Berlin pour célébrer la chute du mur. Roger Waters s'est entouré d'une flopée de stars de l'époque et ils interprètent une version modifiée de The Wall tandis qu'un pan du mur de 170 mètres de long est détruit. Plusieurs musiques sont associées à la chute du rideau de fer. The Wall, Looking for Freedom de David Hasselhoff, Heroes de David Bowie, mais l'hymne de la réunification allemande, c'est incontestablement Wind of Change. Cette chanson, Wind of Change, est signée par le groupe de hard rock The Scorpions. D'ailleurs, le hard rock et le rock vont aussi connaître quelques changements dans la décennie 80.
Les grandes années du rock, évidemment, c'est les années 50, mais bon, il y a eu les années 60 avec toute la vague anglaise qui a envahi le monde, donc les Beatles, les Stones, les Who, les Kings et plein d'autres.
Bernardo Belair, journaliste, spécialiste des musiques du 20e et 21e siècle.
Les années 70 aussi, c'est les années où le rock devient vraiment du rock en stade. Il y a des Pink Floyd ou les Eagles jouent ou ZZ Top, ou enfin plein de groupes de ce genre jouent devant énormément de monde. Et bizarrement, dans les années 80, avec l'arrivée des machines, avec l'arrivée de la pop, ben le rock est un petit peu marque le pas. C'est la première fois que cette musique est un petit peu moins mise en avant. Le meilleur exemple, c'est Bruce Springsteen, qui était vraiment une icône du rock un peu intello, du rock à texte dans les années 70. Eh bien, il se met même à faire de la pop. Il fait Dancing in the Dark, il fait Born in the USA, qui sont plus vraiment, d'un point de vue stylistique, c'est plus vraiment du rock, quoi. Donc il y a plein de groupes qui marquent un petit peu le pas comme ça, mais il y a un nouveau rock qui s'invente, qui lui est plutôt d'un point de vue stylistique issu de la new wave ou du punk. Par exemple, un des plus grands groupes de rock des années 80, c'est U2. U2, ils n'ont jamais vraiment revendiqué un héritage rock un petit peu classique. Ils n'ont rien à voir avec Led Zeppelin ou des groupes de ce type qui sont plutôt ce qu'on appelle le rock classique aujourd'hui. Eux, ils ont toujours revendiqué l'héritage de la new wave et du punk. Et il y a énormément de groupes anglais qui étaient dans ce cas-là. Et Et donc, il y a deux grands courants de rock, mais différents, qui arrivent dans les années 80. C'est la New Wave, donc, qui est issue de cette explosion punk de 1977, qui est devenue la New Wave à partir de 1978, avec des groupes comme Siouxsie and the Banshees ou Cure. Mais tous ces groupes, comme les Stranglers, qui sont arrivés vraiment avec une contestation, une image de gens qui bousculaient un petit peu l'ancienne génération, eh bien, eux se sont un petit peu popifiés, si j'ose dire, dans les années 80. Et des groupes comme Cure, les Stranglers, il y en a plein de groupes comme ça, même Ultravox, par exemple, qui deviennent vraiment des groupes très, très importants, en mélangeant un petit peu à la suite de David Bowie, hein, c'est lui aussi qui a beaucoup, beaucoup influencé les années 80. Eh bien, il mélange à la fois la New Wave, la musique électronique, et une partie de rock, mais avec vraiment cette esthétique plutôt punk. Donc ça, c'est un des grands courants des années 80. Et l'autre, c'est une espèce de renouveau du heavy metal.
Bernard Dobelair.
Cette new wave of British heavy metal arrive au début des années 80, avec évidemment comme tête de pont, c'est Iron Maiden, qui a été, avec toute l'imagerie qui l'accompagnait, a été un des modèles de tout ce qui est arrivé par après. Mais il y avait aussi Motorhead, qui venait un petit peu du punk dans l'imagerie, mais qui était une sorte de trash rock, trash metal. Enfin, c'est un mélange de punk, de metal. Bon, Motorhead, c'est vraiment unique. Puis des groupes comme Def Leppard ou Queen's Rage qui sont arrivés à cette période. Il y a eu une vraie émulation. Alors, il y a plein de groupes américains qui ont suivi, premier rang desquels évidemment Metallica s'est beaucoup inspiré de toute cette période-là. Et donc le métal, qui est devenu grand public dans les années 90, trouve ses sources aussi dans, enfin bon, ça existait déjà bien avant, mais ce renouveau du début des années 80, particulièrement en Angleterre, a vraiment vraiment servi de détonateur à ce style de musique. Parallèlement donc à cette éclosion de ce heavy metal plutôt anglais, on assiste aussi à l'arrivée évidemment d'un hard rock metal qui essaime un petit peu partout. Et puis il faut surtout se souvenir que AC/DC sort en 1980 Back in Black, qui reste le deuxième album le plus vendu de tous les temps, juste après Thriller de Michael Jackson. Et donc évidemment, AC/DC arrive avec cet album, ça donne le ton déjà aux années 80 évidemment. Et puis alors il y a ce hard rock s'inspire du glam des années 70 et ça donne des groupes comme Motley Crue, qui est un groupe américain. Et puis aussi se popifie. Il y a bien entendu Van Halen qui fait Jump, qui est un petit peu étonnant puisqu'il n'y a pratiquement pas de guitare dans ce morceau, à part le solo d'Eddie Van Halen, c'est plutôt des claviers. Et ça donne sans doute aussi toute cette vague de heavy metal un petit peu pop, un petit peu commercial, comme Europe. On appelait ça du poodle rock, donc du rock caniche, parce qu'ils avaient des coiffures un petit peu avec des petites bouclettes comme ça. Donc ça, c'est un petit peu condescendant, certes. Mais donc, le heavy metal et le hard rock est très, très, très présent, oui, dans les années 80. Donc, comme la new wave, un peu au détriment d'un rock plus classique.
Le 3 octobre 1990, la RDA cesse d'exister.
Die Volkskammer erklärt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes mit der Wirkung vom 3. Oktober 1990.
La Chambre des députés du peuple de la RDA déclare son adhésion à la Constitution de la République fédérale d'Allemagne qui prendra effet le 3 octobre 1990. Ces terres appartiennent désormais à la République fédérale d'Allemagne, qui bientôt sera l'Allemagne unifiée. Même si elle se réalise moins d'un an après la chute du mur, l'unification allemande ne s'est pas faite sans crainte. Certains Allemands ont craint qu'une grande Allemagne provoque une troisième guerre mondiale. Et puis François Mitterrand avait quelques peurs, notamment parce que Helmut Kohl avait établi un plan d'unification sans en avertir les autres dirigeants. Et puis la plus farouche opposante était probablement Margaret Thatcher, ce qui fait que les pays occidentaux vont alors émettre plusieurs conditions à l'unification allemande.
Les conditions mises à l'unification
l'unité allemande.
L'historien Andreas Wilkens.
La reconnaissance de la frontière Oder-Neiße, donc la frontière entre l'Allemagne unie et la Pologne, cette frontière a été réaffirmée d'une manière définitive. Une deuxième condition a été que l'Allemagne unie ne sera jamais possesseur d'armes nucléaires, sera donc un pays sans armes nucléaires à sa disposition. Et une troisième condition a été l'intégration de l'Allemagne unie dans les structures de l'OTAN, y compris pleinement l'Allemagne de l'Est. Et il est intéressant de voir que c'était même une idée que le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, James Baker, avait essayé de vendre à ses interlocuteurs soviétiques en disant « si l'Allemagne unie entre pleinement dans l'OTAN, nous pouvons la contrôler. Nous avons un droit de regard sur ce qui se passe en Allemagne. » Et il a même essayé de faire entendre aux soviétiques bah, « c'est aussi dans votre intérêt que cette Allemagne soit contrôlée dans le cadre de l'OTAN. »
Finalement, la construction européenne pourra se faire grâce à la chute du rideau de fer et grâce à l'unification allemande.
Boom, ab das Bier, pump es ab, trink it aus den Humpen. Komm, lass dich nicht lumpen, man kann dich euch pumpen. Boom, ab das Bier, pump es jetzt, pump es hier.
Cette version allemande, Pump Up Das Bier, qui est une parodie de Pump Up de Jam, est signée par Werner Wirtig et se hisse à la première place du top 50 à l'hiver 90. Et si les années 80 ont ouvert la voie à la construction européenne, elles sont aussi à l'origine de deux genres musicaux, dont l'un qui va considérablement se développer dans la décennie à venir, le hip-hop.
Les années 80, elles importent dans la musique de la décennie 2020, parce que c'est elles qui ont vu la naissance des deux mouvements qui sont aujourd'hui majoritaires, qui sont d'un côté l'électronique dance music et de l'autre le rap et le hip-hop.
Yves Bigot.
Donc ces deux mouvements qui sont nés dans cette décennie 80 ont grandi. Aujourd'hui, c'est eux qui sont dominants. Alors pourquoi à ce moment-là ? Ben, je pense parce que justement avec l'arrivée des boîtes à rythme, des séquenceurs et des synthétiseurs, on peut faire de la musique pas chère. Et donc ça démarre, hein, les débuts de la techno, ça démarre dans les ghettos de Détroit, de Chicago, puis de Brooklyn et du Bronx à New York, avec des gens qui simplement font danser dehors, hein, lors de parfois de rent parties, hein, leur communauté, avec pas grand-chose. Je pense que oui, c'est cette technologie bon marché qui permet à cette musique de débuter. D'ailleurs, ça sera intéressant de voir combien beaucoup de premiers musiciens et de premiers rappeurs vont s'intéresser et vont récupérer Afrika Bambaataa, hein, notamment avec Planet Rock, ce que fait Kraftwerk en Allemagne et en Europe. Donc vraiment de la musique électronique et purement synthétique européenne. Après, le rap, ça va se développer, c'est l'expression de la rue, hein. C'est l'expression des ghettos, c'est toute une culture, hein, avec le hip-hop, avec le breakdance, hein, aussi. Et ça, alors, c'est une culture qui est héritée, qui remonte, hein, si on veut tirer sur le fil, au griot de l'empire mandingue dès le 13e et 14e siècle, hein, au Mali, au Sénégal et à ce qui est aujourd'hui le Burkina Faso ou le Niger, via la Nouvelle-Orléans et ce qui s'appelait là les Dirty Dozens, hein, qui étaient déjà des battles. Hein. Alors, le Dirty Dozen, hein, pour le comprendre en français, c'est ce qu'on a appelé ici, ça devait être pendant les années 90, je pense, c'était ta mère à poil devant le prise unique. C'est ça les Dirty Dozen, ça c'est comment se défier, s'insulter et montrer qu'on est, on est un meilleur badass que son concurrent. Et le rap est hérité de ça.
Une des musiques les plus fascinantes qui soit née dans les années 80, c'est bien entendu le hip-hop, parce que c'est le hip-hop est né officiellement, en tout cas le premier disque, le premier tube de hip-hop est sorti fin 79, en septembre 79 pour être précis, et c'est une musique qui a eu énormément de succès au tout début des années 80, avec Sugar Hill Gang bien entendu, Curtis Blow, des gens comme ça, Grandmaster Flash bien sûr. puis qui a assez rapidement muté, qui est devenue plus intéressante à partir de 82-83, où on y a amené des textes un peu sociaux. Au départ, c'était juste de la musique de danse. Et donc, le premier morceau un peu différent, c'est évidemment The Message de Grandmaster Flash, qui parle vraiment de la condition sociale des banlieusards, enfin des gens qui viennent du Bronx, qui doivent travailler à Manhattan, par exemple, et qui sont dans le métro, il y a des grèves, enfin, ils se font arrêter dans la rue. Bref, c'est un petit peu la galère de ces gens-là qui est décrite dans ce morceau de Message. Et je pense vraiment que c'est ce morceau qui a fait que le rap a pu se pérenniser dans les décennies suivantes, parce que sinon, bah, des morceaux un peu de fête comme ça, ça aurait été très chouette à un moment, mais ce serait assez rapidement passé. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Alors pourquoi le hip-hop s'est développé dans cette décennie plutôt que dans une autre? Je pense qu'on peut peut-être résumer ça à ce que disait Chuck D, donc de Public Enemy, qui disait que c'était le CNN des Blacks, enfin c'était en tout cas comme ça qu'il le voyait. Et je pense qu'il y a eu cette prise de conscience, effectivement, que le hip-hop pouvait permettre, par sa nature, on peut y faire des textes très très longs, développer des thèmes assez longs, assez complexes. Et donc, par sa nature, je pense que ça donnait effectivement une visibilité à des gens qui, a priori, n'en avaient pas. Il faut aussi se souvenir, et c'est quand même absolument dingue d'imaginer ça aujourd'hui, mais les artistes noirs n'étaient jamais diffusé sur MTV, parce que MTV est arrivé au tout début des années 80 et on ne voyait jamais d'artistes noirs. Et ça paraît étonnant puisque MTV a été un des grands moteurs du développement du hip-hop dans les années 90, mais à la base, c'était pas du tout le cas. C'était vraiment, il y avait une volonté raciste finalement de montrer des artistes blancs, à tel point que quand Herbie Hancock, musicien de jazz, mais qui a fait beaucoup d'autres choses, il a aussi fait du disco, du funk, etc. Il était un des premiers à faire un morceau instrumental qui s'appelait Rocket, qui est sorti en 83, je pense, ou 82-83, et qui a été beaucoup utilisé dans le hip-hop, notamment en breakdance. C'est un morceau qu'on aime beaucoup utiliser pour ça. Dans le clip vidéo, il n'apparaît pas parce qu'il ne fallait pas avoir de musiciens noirs à l'antenne. C'est absolument ahurissant, oui. Donc, le hip-hop a pu se développer peut-être par rapport à toutes ces carences, justement. Là, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles le hip-hop est devenu très important déjà dans les années 80. Et donc le hip-hop est vraiment né de l'envie de faire la fête, c'était plutôt de la danse en fait, et puis sont arrivés plein de groupes comme Run DMC, N.W.A. qui s'appelait Niggers With Attitude à la base, donc qui a révélé Dr. Dre, Ice Cube, enfin tous ces gens. Il y a aussi Ice-T qui est arrivé dans les années 80, donc le hip-hop a vraiment eu une belle première vie dans les années 80. Il y avait aussi les Beastie Boys, enfin on pourrait en citer plein, et puis la France surtout, qui est le premier pays à avoir réagi au hip-hop. Et la première émission de télé hip-hop est arrivée en 1984. Elle s'appelait HIP, donc hip-hop, était présentée par Sydney. Ça a duré que un an, mais on en parle encore aujourd'hui parce que c'était dingue. Il y a eu Madonna qui est venue comme guest dans cette émission. Ça a aussi généré une véritable antenne hip-hop en France. Et c'est vraiment très, très étonnant. Il y a eu des groupes, enfin bon, un des pionniers s'appelait Dynasty, mais il y a eu énormément d'artistes qui sont arrivés à cette époque-là. Il y a eu aussi ce côté hip-hop au sens large, c'est-à-dire plus vraiment uniquement musical, mais aussi avec le breakdance, les graffitis, tout ça se sont imposés en même temps. Et la France a été vraiment un des tout premiers pays à s'intéresser à ce point au hip-hop. Et bizarrement, le premier tube de hip-hop en France n'était pas français, mais était belge, évidemment. Enfin, le premier tube de hip-hop en français, je voulais dire, c'était évidemment Benny B, fin des années 80. Benny B, B-E-2-N-Y-B, mon nom à moi c'est Benny B, oui tu l'as deviné, comme toi je veux la justice, j'essaie de défendre mes droits, partout où tu vois la foule, c'est qu'on parle de moi, je descends des quartiers, soi-disant mal fréquenté, où la PJ est passée trois quarts de la journée, mais j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de cette vie-là, et pour sortir de cette impasse, je ferai n'importe quoi. Mais vous êtes fous. Oh oui, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui, mais vous êtes fous.
quand je vois dans la rue tous ces jeunes qui hier qui restent là à ne rien foutre, moi je crie colère. Car tous ces façons ne savent pas qu'il reste encore une chance. Sinon nous rien à cirer, pour eux ça n'a pas d'importance. Mais je ne suis pas comme eux, je veux me défoncer. Je ferai tout ce que je peux pour que ça puisse marcher. Montrer à tous ces bailleurs que le move est fort. Qu'une fois que c'est parti, tu te sens le plus fort.
Mais vous êtes fous.
Oh oui.
Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous.
Oh oui.
Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous.
Oh oui.
Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous.
Oh oui.
Mais vous êtes fous.
Je fais partie des b-boys. C'est un style qu'on redoute. À la radio, à la télé, si jamais tu nous écoutes. Je veux que tu penses à nous et que tu dis pas pour tout aux gens qui nous aiment pas. Qu'on poursuivra notre route. Oui, c'est du rap français. Plus fort que jamais. Apportons avec lui le fond de tous ces secrets. Que nous, les b-boys, on peut s'empêcher d'écouter. Si tu comprends pas, c'est que t'es pas branché.
Ladies and gentlemen, DJ
Dedicated.
Mais vous êtes fous.
Oh oui.
Mais qui l'accompagne?
Benny B.
Mais vous êtes fous.
Oh oui.
Mais vous êtes fous.
Oh oui.
Mais vous êtes fous.
Oh oui. B-boy le plus tendre. Je chante ma chanson à qui veut bien l'entendre. Je trouve de nouveaux beats, de nouveaux tubes étonnants. Et crois-moi bien, d'ici peu je serai le plus grand. Car je ne suis pas comme eux, je veux me défoncer. Je ferai tout ce que je peux pour que ça puisse marcher. Montrer à tous ces bailleurs que le move est fort. Une fois que c'est parti, tu te sens le plus fort. Oui, à tous ces bailleurs que le move est fort. Une fois que c'est parti, tu te sens le plus fort. Yo.
Mais vous êtes fous.
Oh oui.
Mais vous êtes fous.